Par derrière. Parce que par devant, on ne voit que la façade. Parce que de côté, on ne voit qu'une partie. Parce que d'en haut, on ne perçoit pas tous les détails. Et parce que par derrière, on a toujours des surprises. Par derrière, pour aller à la rencontre de ces anonymes qui participent, de près ou de loin, à notre vie de tous les jours. Par derrière, pour les mettre, eux, en avant. Je suis Lise Pressac, et pour ce podcast, je tends mon micro à des femmes et des hommes aux métiers peu ou mal connus et aux parcours inspirants. Suivez-moi, c'est par ici. Enfin, par derrière. Dans ma famille, on est quasiment avec une cuillère à glace dans la bouche. La légende raconte qu'à seulement 15 jours de vie, la glace chocolat de chez Rémo était connue de nos palais à ma sœur et moi. Nous avons notre QG dans le 12e. Il était évident qu'il fallait nous en trouver un sur notre île de cœur, l'île de Ré, où nous allons tous les ans depuis 23 ans. Et il n'a pas été difficile à trouver. La Martinière, classée parmi les 5 meilleurs glaciers de France par le Goemio en 2012, une institution rétaise. La glace était la récompense des quelques 5 km à vélo de la flotte à Saint-Martin, mais depuis 2010, plus besoin de se déplacer, la Martinière est sur le port de la flotte, et on se demande comment on a pu s'en passer pendant 10 ans. En terrasse, ma mère, la meilleure cliente du mois de juin. C'est à vélo, évidemment, que je me rends de la flotte à la manufacture de Sainte-Marie, retrouver Xavier Catala. Lundi, début d'après-midi de juin, je suis sur mon petit vélo, zone artisanale.
Bonjour, qu'est-ce que ça sent bon chez vous? C'est dommage qu'il n'y ait pas l'odorat dans le podcast.
Ah.
Ça va bien? Ouais.
Super, je te fais faire un tour de la boutique.
Je suis au paradis. Ici sont fabriquées les glaces, les sorbets, les pâtisseries glacées, les biscuits et la pâte pour les gaufres des 5 points de vente de l'île de Ré.
Donc là, c'est le laboratoire où on fabrique nos crèmes glacées et nos sorbets. Donc il est divisé en deux parties. La partie qu'on appelle légumerie, c'est là où on prépare les fruits. Donc on les épluche, on les centrifuge, on les presse, bon, suivant la catégorie de fruits. Une fois que l'extrait est sorti du fruit, on passe au tour des pesées où on mélange le sucre. Et ici, c'est la partie pour les crèmes glacées. C'est cuit dans des pasteurisateurs. Donc dans ces pasteurisateurs, on met le lait, le sucre, les matières grasses et les gousses de vanille, si c'est de la vanille, le chocolat, si c'est du chocolat. Bon, bref, les arômes qui correspondent au parfum que l'on veut faire. C'est un cycle d'une heure et quart à peu près. On monte à 85 degrés et on redescend à 4 degrés. Et après, on laisse maturer, c'est-à-dire ça repose 12 heures pour que tous les arômes s'installent. Une fois que ce cycle est complet, on passe dans les machines qui sont au fond là-bas. Donc ça, c'est des turbines à glace. C'est un gros cylindre avec des couteaux racleurs qui viennent lécher le bord du cylindre. Ce cylindre refroidit à moins 30 degrés, ça givre. Les couteaux viennent racler, remélangent au liquide, ainsi de suite, jusqu'à temps que ça épaississe. Et en même temps, on incorpore un petit peu d'air à hauteur de 30% pour que la glace soit onctueuse et crémeuse. Donc là, on est à moins 22 degrés.
Oh, la vache.
Et c'est là où on a nos stocks pour tenir 4-5 jours le temps de livrer dans les boutiques.
Ça, c'est 4-5 jours parce que ça paraît énorme. Hein. Ouais.
Bah, sur certains produits, un petit peu plus long, donc ouais. Ça va d'une semaine à 4-5 jours.
D'accord.
Donc là, c'est tout ce qui est en carton noir, c'est les bacs de glace. Et ici, il y a la partie pâtisserie glacée, les macarons glacés, les pâtisseries type vacherin, tarte vanille.
Tu fais quoi dans la vie?
Je vends et je fabrique des glaces, ou plutôt l'inverse. Je fabrique et je vends des glaces.
C'est mieux dans ce sens-là, sinon on ne peut pas le faire.
Quoi que l'un ne va pas sans l'autre. Une bonne glace mal vendue, c'est un moment pas agréable. Alors qu'une glace moyenne, très bien vendue, ça reste un excellent moment. Donc il faut faire attention.
Et on en connaît des moyens glaciers, mais qui vendent bien. On ne donnera pas de nom.
Oui, et on connaît l'inverse aussi. Des gens qui font un produit extraordinaire, mais malheureusement, c'est moins bien distribué. Du coup, on apprécie moins bien leur glace. Donc voilà, le but du jeu étant d'allier les deux.
Depuis combien de temps tu es dans le bac à glace?
Depuis toujours.
Je suis depuis toujours, parce que je suis né en même temps que la Martinière. Donc la Martinière est née en 1970, moi également, donc pour ça fait 53 ans. Quoi. Mes parents, au préalable, étaient boulangers-pâtissiers sur l'île de Ré, sur Saint-Martin-de-Ré. Et arrivé un moment, ils ont choisi de s'orienter vers la glace. Ils ont tenu pendant quelques années et un glacier et une boulangerie pour après aller directement, du moins abandonner la partie pâtisserie-boulangerie pour ne faire plus que de la glace.
Et qu'est-ce qui a fait qu'ils se sont dit que c'était plus la glace que la boulangerie-pâtisserie qui avait de l'avenir, ou ils voyaient qu'il n'y avait personne sur ce créneau-là? Comment leur est venue cette idée?
Alors, il faut remettre tout dans le contexte, hein, c'est les années 70-75. L'île de Ré, c'est loin d'être ce qu'elle est aujourd'hui, c'est-à-dire c'est un petit bout de terre charentaise perdu au milieu de nulle part, avec pas de clientèle, il n'y avait que des locaux. Mes parents avaient une trentaine d'années à l'époque, et le métier de boulanger-pâtissier est un métier difficile physiquement, et papa avait envie de lever un peu le pied, donc arrive un moment, ils sont orientés vers la glace, puis quand ils ont vu que ça travaillotait un peu, ils ont décidé d'arrêter la partie boulangerie-pâtisserie.
Ça a l'air d'être un métier aussi un peu physique et un peu qui demande quand même aussi de l'énergie, glacier. C'est pas si... Alors je vois bien entre boulangerie-pâtisserie, mais...
La grosse différence, elle est qu'on se lève moins tôt le matin déjà, et ça reste moins difficile. Bon, aujourd'hui, c'est un peu moins vrai, puisque le métier de boulanger-pâtissier, c'est automatisé. Il y a des machines qui viennent suppléer l'homme, du moins l'aider dans ses tâches, alors qu'à l'époque, tout était manuel et c'était très contraignant. Pour l'anecdote, mon père, quand il a commencé son apprentissage, il portait des balles de farine de 100 kilos. Moi, quand j'ai commencé le mien, on était à 50 kilos. Aujourd'hui, on n'emploie que des sacs de 20 et des fois même moins de 15 kilos. Donc, vous dire que le métier, maintenant, est quand même moins dur physiquement. Après, normal, à l'époque, c'était plus que dur physiquement.
Pourquoi la Martinière ?
Pourquoi la Martinière ? Oh, parce que mon père, c'est un personnage, lui tout seul. Et la Martinière, c'était le bateau qui faisait la navette entre Cayenne et Saint-Martin. Donc Saint-Martin était l'endroit où étaient entassées les bannières pour Cayenne. Et donc il y a ce bateau qui les emmenait à Cayenne. Et donc, il a choisi ce nom-là pour ça, parce qu'à l'origine, il devait monter le salon de glace et à l'intérieur, il voulait faire des box comme un bâton de prison. Donc l'idée était là, le nom est resté, mais il n'a pas fait les box en bateau de prison pour manger des glaces. Mais papa est un mec atypique.
Oui, il y avait de l'idée, il y avait de l'idée. Et alors, est-ce que c'était une évidence pour toi de reprendre et d'avoir la poursuite et la continuité familiale ?
Est-ce que c'était une évidence ? Non, moi je ne sais pas. Étant donné que je suis né dans l'affaire, j'ai toujours traîné mes guettes, j'ai eu une cuillère à glace... en même temps qu'un doudou, certainement. Donc, est-ce que c'est le poids de la famille, le poids des gens ? Est-ce que c'est mon choix ? Je ne sais pas. Et puis maintenant, je m'en fiche, à vrai dire. Je ne cherche pas à savoir. Je fais un métier qui me plaît. Je pense le faire honnêtement. La clientèle ne s'y trompe pas. Donc voilà, je me contente de cette réponse-là.
Et ça a été quoi ton parcours ? Parce que tes études, etc.
Mon parcours ? Un excellent parcours de fils d'eux. Voilà.
Donc, mais c'est pas toujours facile, hein ?
Non. Mais comme beaucoup de fils d'eux, au début, il y a la facilité. Donc on se laisse aller. Et puis un jour, on se réveille en disant, maintenant, on a fermé la porte à d'autres options. On se retrouve à faire ce métier-là. Parce qu'on n'a pas mis d'énergie dans les études ou pas mis d'énergie dans autre chose. Et petit à petit, je me suis aperçu que c'est un métier pour lequel on pouvait se passionner et chercher des nouvelles voies, de le faire différemment, et qu'il y a plein de portes qui s'ouvraient, ça suffisait juste de travailler. Donc à partir de là, je me suis mis à travailler et à construire mon artisanat. Moi, mes parents ont construit le leur et moi, j'ai construit le mien avec l'aide de mon épouse.
Le couple est à la tête de l'entreprise depuis 2001, mais Xavier a arrêté ses études pour se consacrer entièrement à ce métier depuis ses 17 ans, en 1987. Comment est-ce qu'on se renouvelle ? Comment est-ce qu'on crée en permanence ? Et comment est-ce qu'on fait en sorte que, on sort aussi des nouveautés ? Parce que moi, j'ai l'habitude de venir, je viens une fois avoir deux par an, et je trouve toujours un nouveau parfum, tout en gardant les bases. Alors, je ne vais pas te demander le secret du caramel beurre salé. Mais comment est-ce qu'on fait pour satisfaire des nouveaux goûts, avoir des idées ? Enfin, comment est-ce que naît le parfum d'une glace ?
Comment naît ? Ah, de la liberté. Je viens de découvrir ça, parce que là, j'ai une période où j'étais un peu moins libre, et je m'aperçois que j'étais un peu sec comme un taco. Et là, j'ai retrouvé un peu de liberté, et du coup, on retrouve aussi de la créativité. Et je pense qu'il faut avoir le temps de rêver pour pouvoir trouver des nouvelles choses. Le temps de rencontrer d'autres gens, d'écouter, de regarder. Et là, tout d'un coup, les chakras s'ouvrent, et on voit des choses qu'on n'avait pas vues auparavant. Donc là, cette année, on a eu l'occasion d'aller chez des amis... au Maroc, à Marrakech, et c'est là où j'ai trouvé une petite saveur qui m'a plu, et on a travaillé cette idée-là, donc on a sorti un sorbet carotte, orange, fleur d'oranger avec des morceaux de date dedans. Donc voilà, c'est une discussion avec quelqu'un, un repas, voilà, c'est plein de choses comme ça qui font qu'on peut trouver des nouvelles idées. une lecture aussi, ou un film, ou, voilà, une sensation, un moment fugace, et tac, on se dit, ah tiens, peut-être une interprétation à faire là-dessus dans mon cadre de travail.
Une fois qu'on a l'idée à la rigueur de la saveur, comment est-ce que, parce que je sais que tu travailles aussi avec du local et des produits du coin, comment est-ce qu'on retrouve, bah, typiquement c'est un bon exemple, la saveur qu'on, ou la sensation qu'on a eue à Marrakech, comment on la retrouve à l'île de Ré?
Alors, tout dépend du produit qu'on travaille. Voilà. Si c'est quelque chose de personnel, c'est une interprétation, et dans ce cas-là, il faut juste argumenter son interprétation. Parce que le goût qu'on va créer, il nous est propre. Donc, il faut juste transmettre l'émotion qui est venue à ce goût-là à notre consommateur final. Alors que si on travaille un fruit qu'on ne connaît pas, ou du moins une saveur brute, là, non. Il suffit juste de coller au plus près du fruit ou de l'arôme qu'on a choisi, de respecter le travail de la nature. Donc, c'est deux manières différentes. Souvenir de Marrakech, il n'y a pas de base. C'est mon interprétation d'un moment que j'ai vécu avec un certain goût, et on a construit une histoire autour. C'est plus intellectualisé comme goût. Alors que si on travaille un chocolat, bah là, non, on va choisir un producteur, on va choisir un type de chocolat pour son amertume, et après on essaye de faire une glace qui respecte le produit originel. Voilà, donc ce n'est pas tout à fait le même travail.
Ça prend combien de temps en général pour se dire qu'on est arrivé à la saveur parfaite, le bon équilibre entre et la texture et la saveur? Parce qu'on n'a pas parlé de la texture, mais c'est aussi hyper important. Parce que par exemple, le sorbet mangue, moi je trouve qu'on retrouve presque le... Exactement. Donc comment est-ce qu'on travaille ces deux choses à la fois? Parce qu'on peut avoir la saveur sans avoir la texture et inversement.
Ah oui, on reprend plusieurs fois le travail. Donc on fait un premier essai, puis un deuxième, puis un troisième. Il y a des fois au bout de trois, paf, on a trouvé. Donc ça c'est... plutôt rapide, et il y a des fois c'est 10 fois, 15 fois avant de trouver, et puis des fois on trouve, on dit ah c'est impeccable, et deux ans après on regoute, on dit ah là 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 là, mais non, on peut retravailler. Donc on évolue, le palais évolue, la sensibilité évolue sur certains goûts, et du coup un travail qui a été fait en amont peut après sembler un peu désuet ou un peu raté, alors qu'il était parfait au moment où on l'a fait. Mais 5 ans après, les choses ont changé, et il faut retravailler. Il y a un truc qui me fait toujours sourire, il y a certains clients qui nous disent « Oh là là, ça fait 50 ans que je mange vos glaces et tout, c'est toujours les mêmes ». C'est très plaisant d'entendre ça, mais seulement les glaces, tous les 4-5 ans, grosso modo, les recettes sont revues. Donc, c'est pas toujours les mêmes. On vous suit, on vous écoute, on fait attention à nos clients. Chaque réflexion, même si petite soit-elle, a un impact. On dit, tiens, pourquoi on m'a dit ça? Et si jamais un deuxième client dit la même chose, un troisième, au quatrième, on dit, oh là là, c'est qu'il y a quelque chose. On ne colle plus au desiderata de la clientèle. Quand j'ai commencé à faire de la glace, c'était des œufs, beaucoup d'œufs, beaucoup de jaunes d'œufs. Aujourd'hui, il n'y en a quasiment plus. Et parce que les gens ne veulent plus du goût d'œuf. Donc, ils veulent de la crème glacée. Hein, donc, un mélange de lait, de crème fraîche et de sucre. Et puis, bien sûr, le parfum que vous voulez dedans. Mais comme quoi, voilà, les choses changent. Il faut juste écouter, encore une fois.
À la Martinière, j'ai mes basiques sur lesquels je retombe toujours. Il y a beau y avoir près d'une cinquantaine de parfums, de la noisette du Piémont à l'huître de l'île de Ré, en passant par les classiques chocolat, vanille, fraise, ou la nouvelle venue tarte citron meringuée, je reviens toujours au parfum caramel fleur de sel et yaourt. Une glace que j'ai essayée partout et dont je ne retrouve pas le goût. Xavier me confie que c'est une de celles dont la recette a le moins changé, du moins en partie.
La texture avant était un peu moins bien, on l'a retravaillée. Donc oui, parce que... qu'on n'a pas encore parlé de texture, c'est un équilibre parfait, en fin de compte. Une bonne glace, c'est le goût exact et la texture exacte. Et il n'y a pas de standard. On ne peut pas dire, moi j'ai trouvé la texture pour tous les parfums. Non, c'est chaque parfum a sa texture. C'est une interprétation, encore une fois. Donc moi j'aime bien un citron un peu granité. Donc certains professionnels me disent des fois, oh, ton citron, il n'est pas très réussi, la texture, elle n'est pas terrible. Ouais, elle n'est pas terrible. Mais moi je l'aime comme ça. C'est ma glace. Et en fin de compte, C'est ça justement l'artisanat, c'est l'interprétation d'artisans qui vous font un goût, et c'est leur goût. C'est peut-être pas le goût parfait, mais c'est notre goût, c'est notre manière de voir le métier. Donc après, il y a un autre artisan qui va vous interpréter d'autres gammes, ça sera sa manière à lui de faire le métier. Est-ce qu'il est meilleur que moi? Est-ce que je suis meilleur que lui? Non, c'est une interprétation, chacun joue sa partition, et avec un talent différent et une sensibilité différente, et on a chacun nos clients, des fois des clients communs, donc voilà...
Est-ce qu'il y a des parfums auxquels il ne faut pas toucher? Moi, je pense au chocolat, c'est à la fois un classique et à la fois c'est difficile d'avoir un bon chocolat. Est-ce qu'on fait des variantes justement en faisant du cacao plus intense, moins intense ?
Le chocolat, c'est le parfum le plus difficile parce qu'il y a autant de manières de faire une glace ou du moins un produit au chocolat que d'être consommateur. Parce qu'on a chacun notre vue du chocolat. Donc là, il faut trancher. Alors c'est simple. Moi, la glace chocolat standard, c'est la mousse au chocolat de ma grand-mère. Donc quand on cherche un nouveau chocolat ou alors... quand on fait les dégustations, on cherche ce goût-là. Donc là, il n'y a que moi. Maintenant, le chef, parce que ça fait tellement longtemps qu'on bosse ensemble, qui connaît, il dit non, ça ne lui plaira pas, ça ne lui plaira pas, vaut mieux ça. Voilà. Donc ça, c'est la glace chocolat. Et après, on fait un chocolat plus fort. Et là, on pense au chocolat amer, quelque chose de plus fluide en bouche, alors que l'autre chocolat est plus mousseux, plus gras, plus gras. Une apparence plus grasse en bouche. Hein.
Et alors, on parlait des ingrédients. Est-ce que tu vois, les gens demandent quelque chose de moins sucré, de moins gras, ou est-ce que, enfin, ça se ressent dans les retours et dans les habitudes alimentaires ?
Oui, on a énormément des sucrés. Je pense qu'on fait partie des glaciers les moins sucrés, parce que les moins sucrés de France, je pense, très honnêtement. Mais après, on peut pas aller au-delà, parce que la glace, justement, ce qui différencie d'une glace d'un glaçon, c'est le sucre et l'air que l'on met dedans. Donc il y a des doses qui font la qualité. Et il y a un moment où si on enlève du sucre, on va tomber vers de l'eau gelée et la texture va plus être bien. Donc c'est un juste équilibre. Bon, maintenant on a plein de sortes de sucres, on a des fructoses, des glucoses. C'est pas que des gros mots les glucoses, hein, parce que maintenant on tire sur tout ce qui est édulcorant, ou moins tous les sucres. Mais bon, les glucoses, c'est jamais que du sucre de autre chose que de la betterave ou de la canne. Hein. Donc ça peut être de maïs, ça peut être de blé, voilà. Donc il ne faut pas en avoir peur non plus. Donc c'est, oui, cet équilibre des sucres, et on ne peut pas aller trop bas. Et après, cet air qu'on incorpore, donc je vous dis, grosso modo, pour la qualité, l'air, il faut en mettre entre 15 et 30%. Donc jusqu'à 30%, c'est pour la qualité, pour avoir une glace onctueuse, agréable à manger et que ça soit ce côté crémeux. Au-delà, par contre, c'est plus pour la qualité, c'est plus pour le porte-monnaie. Donc voilà, et c'est ce qui différencie un artisan d'un industriel. C'est qu'un industriel ne se gratte pas pour vous mettre 100% d'air. Parce que le législateur nous autorise à mettre jusqu'à 100% d'air. Donc pour un litre de produit mis dans un litre de liquide, donc de préparation de glace vanille, vous pouvez sortir 2 litres de glace.
Ah oui ?
Oui, bien sûr. Okay. Alors que logiquement, vous allez sortir 1,3 litre, quoi. Donc là, il est en train de préparer les cacahuètes pour nous faire une pâte de cacahuètes. C'est bien ça, Quentin ? Donc là, on a torréfié les cacahuètes et on va les broyer pour en faire une fine pâte pour après aromatiser notre glace.
Pour faire une bonne glace, il faut du temps. Pour certaines matières premières, il y a du travail dessus, et pour toutes, il y a du repos entre les différentes étapes. Une heure et quart de travail, mais avec les temps de pause, c'est une douzaine d'heures au total. Et on parlait d'artisanat, je sais que c'est quelque chose aussi qui te tient à cœur. Il y aurait plein de glaciers qui auraient voulu s'étendre, par exemple, avoir, je ne sais pas, des revendeurs ou des mêmes... Je sais que tu es très attaché à ce que ça reste sur l'île et que ce soit vraiment le glacier de l'île de Ré. On vient et on le... Voilà, moi, je la mange une fois par an ou deux fois par an, mais pas plus, quoi.
Mais c'est simple. Après, c'est une vision. Hein. Elle est partagée ou pas, peu importe. Mais bon, en tous les cas, c'est ma vision, encore une fois. L'artisanat, c'est une histoire d'homme. Et c'est une histoire d'homme qui fabrique, en l'occurrence de la glace, mais c'est aussi une histoire d'homme qui vend. Et tout ça, pour moi, ça ne peut pas, on peut pas le transférer vers d'autres. Moi, la glace, je la vends avec passion. Mes équipes la vendent avec passion parce que je fais attention à eux. Je leur explique ce que l'on vend, comment on le vend. Ils visitent le laboratoire. Je vais souvent les voir. Et la relation avec la clientèle, pareil. Bon, je ne me targue pas de connaître l'intégralité de ma clientèle, mais j'en connais beaucoup. Et j'essaye d'être accessible. Si jamais quelqu'un m'interpelle dans la rue, je prends toujours 2 minutes pour passer et expliquer. Parce que c'est ça, l'artisanat. C'est vraiment une histoire d'homme et de passion. Et on a un travail, cette passion à transmettre. Et pareil, on a une valeur sociale au niveau des équipes. Après, c'est de l'industrie. Quoi. Vous avez un numéro, vous pointez, vous allez faire votre travail, vous repartez, vous connaissez personne. Là, non, on se connaît tous, on passe des moments ensemble, des moments de travail, mais aussi des moments de vie. Il y a des débats d'idées, tout le monde a son mot à dire sur notre artisanat. Et même le petit qui vient juste de rentrer, qui a 16 ans, et qui dit « Ah, moi, monsieur, machin... » je l'écoute parce que c'est son point de vue et peut-être, et c'est mes futurs consommateurs, les 16 ans, mes futurs clients qui viendront peut-être un jour avec leurs enfants. Donc j'écoute, je retiens et au bout d'un moment, des fois ça fait son chemin.
Pourquoi tu fais ce métier ?
Pourquoi je le fais, je ne sais pas. Pourquoi je le continue ? Ben parce que c'est passionnant, parce que j'ai des gens passionnés autour de moi, parce que j'ai des clients top. Donc voilà, pour l'instant, ça remplit ma vie. Et tant que ça remplit ma vie, je continuerai.
Ben oui, mais là, on est très loin de la retraite, hein, 53 ans.
Oui, mais j'ai commencé tôt. J'ai vendu mes premières glaces, j'avais 10 ans. Hein, donc si on cumule en nombre de glaces vendues, ça en fait. Hein. Donc non, on est encore loin, ouais. Puis il y a d'autres schémas avant d'arrêter complètement. On peut aussi prendre un peu de champ tout en continuant.
Est-ce que tu as des enfants ?
J'ai deux filles.
Et elles font quoi ? Elles ont quel âge ?
Alors j'en ai une qui fait des études supérieures et l'autre qui, à cette heure-là, est en train de passer son oral de bac.
Voilà. Le papa est anxieux ou pas ?
Non, je fais confiance en mes filles. Donc il n'y a pas de problème.
Elles ont envie de faire quoi ? Elles savent déjà ?
L'aînée, oui, elle fait des études supérieures. Donc je pense qu'elle va faire autre chose, quoi. Changer par la suite, oui, non, mais voilà. Elle a besoin de se réaliser dans ses études, donc je pense qu'elle aura un parcours professionnel au début dans ses études. Peut-être qu'elle viendra, mais elle fera ce qu'elle voudra. En tous les cas, on n'en a jamais parlé. Nous, on a évoqué le truc, mais on n'a jamais stimulé le fait qu'elle vienne travailler avec nous. On n'a jamais voulu qu'elle vienne travailler avec nous, étant gamin, pour pas justement influencer leurs décisions. Et si un jour une des deux devait travailler ou reprendre, c'est parce que ça sera sa décision et qu'elle dira ah, bah tiens, dans votre aventure, je sens que je vais pouvoir faire la mienne. Mais si c'est pour reprendre, bah non, ça, j'y tiens pas plus. Hein.
Ça veut dire qu'elles, elles n'ont jamais voulu venir vendre des glaces quand elles avaient justement l'âge que tu avais quand tu as vendu tes premières glaces ?
Non, j'ai pas voulu les influencer. Et ma femme m'a tenu.
Elle aurait pu demander, sans que tu les influences.
Oui, mais on sait qu'après, une fois qu'on a mis le doigt dedans, Non. Ce qui est drôle, par contre, c'est qu'elles n'ont jamais travaillé avec nous. Et aujourd'hui, quand on parle à la maison de glace, elles détiennent du savoir. Donc, c'est drôle, quoi.
Vous en mangez beaucoup, des glaces, à la maison ?
Oui, régulièrement. Mais celle que je préfère, c'est la glace des autres. Quand elle est ratée.
Ah, d'accord. Mais t'aimes pas la manger, t'aimes qu'ils les ratent.
Non, celle que je déteste, c'est la glace d'un de mes confrères quand elle est réussie. Celle-ci, je la déteste.
Est-ce que le palais que tu as essaye de décrypter ce qu'il a pu mettre qui fait que...
Ah bah oui, c'est le jeu, ça. C'est le jeu,
ouais. Vous observez beaucoup, blague à part, entre glaciers ou pas tellement ? Ça t'arrive d'aller faire des...
Ça dépend de la catégorie de glaciers. Avec certains, on s'observe, parce que voilà, on a juste à s'observer. Avec d'autres, on échange. Donc là, la semaine dernière, j'ai eu une rencontre et là, on a échangé. J'ai vécu un moment extraordinaire. Donc voilà, ça dépend des gens. S'ils ont la même fibre que vous et la même vue du métier, ça fait des bons moments de partage. Et on a tout intérêt à partager le savoir plutôt que de le garder. C'est une vue ancienne du métier où on gardait son savoir, on ne le divulguait pas. Alors qu'on s'aperçoit qu'en le partageant, ça permet nous d'aller plus loin et par les conseils reçus de la personne en face.
Est-ce que ça t'est arrivé de faire des parfums ratés où vous les avez mis sur le marché puis vous avez dit en fait non, c'était peut-être que mon goût, ça marche pas trop et on le retire ?
Il y a des parfums ratés parce qu'ils étaient ratés intrinsèquement dès le démarrage et il y a des parfums pas ratés mais qui n'ont pas rencontré leur public parce que ça correspond à une toute petite niche, parce que ça correspond ça correspond pas au moment vécu. Ici, les gens ils viennent en vacances, ils intellectualisent moins et ils ont besoin qu'on leur parle au cœur, pas la tête. Alors que peut-être qu'une glace qu'on mange à Paris, quand on est dans le train-train quotidien, on l'intellectualise, on fait. La recherche n'est pas la même. Et souvent, j'en discute avec des clients parisiens et ils viennent pas chercher la même chose. Quand ils viennent ici, ils viennent chercher le bon sens. Le temps long, laisser le temps au temps, d'avoir une vraie relation avec son commerçant, d'avoir un échange et des goûts simples, des goûts un peu perdus, un bon pain, une bonne glace vanille toute bête, sans leur demander un truc compliqué. On veut juste passer un bon moment en famille. Donc ça, c'est différent. Je pense que je ne ferais pas le même métier si j'étais à Paris.
Ah ouais ?
Ah je pense, oui. Ouais. Là, je... Ah, je pense que je proposerais d'autres choses. Parce que Paris, je pense que dans les grandes villes, les choses se suivent plus vite. T'es nouveau pas longtemps. Alors qu'en province, non, on vient chercher le côté rassurant. Les gens, j'ai l'impression qu'ils veulent juste qu'on leur parle au cœur. Donc là, on est dans le laboratoire biscuiterie, où l'équipe confectionne. Là, aujourd'hui, c'est guimauve. Il y a atelier guimauve. Il y a atelier quoi, là-bas ?
Gaufrette,
donc en pâte sablée. Donc ici, sont fabriquées toutes les inclusions qui viennent dans la glace. Donc ça peut être les pralines, ça peut être les biscuits brunis si on fait une glace brunis, de la meringue si il y a de la meringue. Voilà. Donc dans ce labo-là, c'est tout ce qui vient en plus dans la glace, la nougatine, tout ça. Et aussi la confection des macarons glacés et pâtissiers et la confection de la biscuiterie parce qu'on a un rayon biscuiterie.
Est-ce que quand tu conçois aussi les parfums de glace, tu penses à tous les à côté? Parce que quand on prend une coupe, il va y avoir de la chantilly. Il va y avoir peut-être de la nougatine, peut-être de la meringue, peut-être du coulis de chocolat. Est-ce que quand on pense aussi au parfum, on pense avec ce qui vont être accompagnés? Parce que la chantilly aussi, c'est un truc important. Oui. Elle est très bonne aussi. Et par exemple, une bonne glace avec une mauvaise chantilly, c'est raté, quoi.
Mais encore une fois, c'est ça l'artisanat. C'est du début jusqu'à la fin. Vous devez choisir le producteur, le bon producteur pour faire votre produit. Et après, jusqu'à la fin, jusqu'au moment final, l'acte de mettre le produit dans sa bouche. Et là, il y a tout un chemin à parcourir. Je prends toujours l'exemple de cette superbe tarte fraise ou tarte aux fruits que vous voyez chez le pâtissier. Elle est magnifique. Il y a des fruits sur 15 cm. Oh, vous achetez ça, il vous la met dans la boîte. Donc déjà, ping, il y a deux fraises qui tombent quand il vous la met dans la boîte. Bon, il referme. Vous arrivez chez vous, il y a 15 fraises ou 15 fruits qui sont tombés éparpillés. Donc déjà, c'est plus la tarte que vous avez achetée. Hein. Et au moment où vous la mettez sur la table et que vous la servez, déjà, elle est un peu déconfite. Et là, vous mettez le premier coup de couteau dedans, paf, il n'y a plus rien. Et dans l'assiette des convives, il y a une espèce de bloubi-boulga au milieu de l'assiette. Eh bien ça, c'est, on n'a pas bien fait son travail. Faut tout penser. Et c'est pareil quand on fait une coupe en salon de glace. Attention à tout ce qu'on met dedans. Il faut que la verrerie soit réfrigérée pour qu'on ait le temps de le servir à table, pour pas que la glace soit fondue au moment où elle arrive sur la table. Il faut que la chantilly soit bien sélectionnée. Il faut que les petits biscuits, le coulis de chocolat soient adaptés à la composition que vous allez faire. Il faut tout penser. Mais c'est justement là, c'est d'aller dans le sens au fin fond du détail pour que le consommateur soit content. Et c'est, encore une fois, c'est ça l'artisanat, c'est cette vue globale.
Et alors, est-ce que quand on est glacier, on est puriste? C'est-à-dire, est-ce qu'il faut manger une glace, ça se mange que comme ça, ou justement, est-ce que ça s'agrémente ou pas? Est-ce que le glacier puriste, il est cornet et papeau? Est-ce qu'il y a des écoles comme ça?
Ouais, il y a des écoles comme ça, mais après, ça dépend. Moi, je pense qu'on peut être tout et tout à la fois. Il y a des fois où je vais manger avec une idée bien précise, juste une boule de glace vanille, parce que je veux savoir si ma glace elle a le bon lait, si elle a le bon bonne matière grasse, si tout est bien. Et je veux rien d'autre, parce que je veux juste vivre un moment avec ma glace vanille. Et il y a des fois, j'ai envie d'un goût global avec la sauce chocolat. Et ce qui m'importe, c'est que quand je prends un peu tous les ingrédients, tout fonctionne. Donc après, il y a des jours où on est comme ça. Je sais pas, moi personnellement, le matin, je me lève pas toujours avec la même humeur. Donc c'est un peu pareil. Donc, voilà.
Est-ce que tu arrives à profiter d'une glace sans avoir ton œil critique? Moi, par exemple, je suis journaliste. Quand je regarde le journal, j'ai du mal à me défaire du côté « Ah, ça a été fabriqué comme ça ». Est-ce que tu arrives à manger une glace sans y penser?
Non, j'y arrive pas. C'est impossible. Non, après, c'est mon métier, je suis tellement déformé. C'est comme quand on se balade, des fois, mon épouse me dit « Mais arrête, t'es chiant !» Parce que je dis « Oh, regarde, là, ça fera un super emplacement, là, regarde oh, !» Puis voilà, on est tous déformés par son métier, on voit tout. Non pas que j'ai envie de monter 50 000 boutiques, mais c'est parce que je dis « Oh, ça sera un bon emplacement, pour moi ou pour un autre, d'ailleurs !» Quand je le dis, c'est parce que je trouve que c'est un endroit à glace.
La manufacture de la Martinière est à Sainte-Marie, avec vue sur les vignes. Les glaces sont à déguster avec vue sur la mer, à Saint-Martin, la maison mère, et depuis quelques années sur le port de la Flotte, mais aussi au Bois-Plage et à Saint-Clément-des-Baleines.
L'idée, c'est est-ce qu'il y a d'aller à l'aquarde, je ne sais pas où est-ce.
J'ai jamais réfléchi à quoi que ce soit.
Ouais, j'ai juste toujours... vu un emplacement et tu l'as pris.
J'ai toujours fait ça au doigt mouillé. Donc, des fois, je l'ai fait parce que j'en avais très, très envie. Des fois, je l'ai fait parce que j'avais très, très peur de la concurrence ou de machin. Voilà. Des fois, je l'ai fait pour faire plaisir. Voilà, je sais pas où ça va me mener encore. Donc, vous dire que demain, il y aura deux boutiques de plus, peut-être, mais pas sûr. Je saurais pas vous dire.
Du moment que celle de la Flotte reste, moi, je...
Non, le tout, c'est que je m'amuse. Tant que je continue à m'amuser, voilà, je continuerai à peut-être ouvrir des boutiques, j'en sais rien, on verra bien. J'étais fait pour être manuel.
Oui, en fait.
Ah oui, j'aime beaucoup bricoler, j'ai toujours...
Et puis la création, pour moi, c'est...
En fait, il y a deux aspects dans ce métier-là. Il y a un côté un peu... c'est pas chimiste, mais le côté mettre ensemble des matières, il faut quand même avoir un peu de notion, voilà, de choses qui vont ensemble, mais il faut avoir la créativité.
Ouais, mais même j'aime faire. Ouais. J'aime faire. Et puis, je trouve que dans le geste de faire, il y a une rencontre et il y a une contrainte. Et j'aime assez ça. Quand vous avez passé des heures à taper avec un marteau et un burin pour faire une sculpture, vous avez des ampoules et des machins. Mais vous avez donné un peu de vous. Mmh. Ouais. Et même dans l'artisanat, il faut qu'il y ait un peu... Dans notre artisanat, il faut qu'il y ait un peu de sang, il faut qu'il y ait un peu de larmes, hein, et un peu de sueur, autrement ça n'a pas de sens. Donc tout ce que j'ai fait, il y a toujours eu un peu de sueur, un peu de sang et un peu de larmes. Donc j'ai construit ma maison, et voilà, il y a eu ça. J'ai les entreprises, les boutiques qu'on a montées, j'ai toujours participé, donc j'ai toujours laissé un peu de sueur, un peu de larmes et un peu de sang. Mais c'est comme ça. C'est peut-être un peu judéo-chrétien, je ne sais pas, mais bon. Faut laisser comme ça. Mais moi j'aime bien.
Tu fais quoi du reste de ta vie? Est-ce qu'il y a encore un peu de temps pour autre chose?
Ça a pris beaucoup de temps, ça a pris toute ma vie jusque-là, et j'apprends aujourd'hui à faire un peu autre chose. Donc j'essaye de devenir un peu plus rété.
Ça veut dire quoi être plus rété? Hein? Aller à la pêche à pied, manger des huîtres?
Exactement, c'est tout à fait ça. Donc ça fait plus de 30 ans que je suis la tête dans le guidon, j'ai pas profité de l'île de Ré... De tout ce qu'offre l'île de Ré. Donc là, j'ai mon beau-frère qui s'occupe de moi et donc je suis allé pas mal à la pêche là, ces dernières semaines. Je suis allé pêcher des araignées. Ouais, c'est trop bien. Avec palmasque et tuba. Je suis allé à la pêche à la ligne. Voilà. Bon, je fais d'autres choses, quoi. Mais là, j'ai envie de faire un peu de voile.
Dire aussi.
La dernière fois que j'ai fait de la voile, j'avais quoi, 14 ans, je crois.
Donc, c'était avant les glaces même, la voile.
Avant les glaces, ouais.
Alors j'ai une dernière question. Donc, dans mon podcast, je vais voir des gens qui me racontent un peu leur parcours, leur métier, etc. Quelle personne ou quel métier t'aurais envie de connaître ou quelle personnalité t'aurais envie de connaître? Toi, t'aurais envie de connaître le parcours de quel genre de métier?
Sûr, ça serait dans l'art. Ouais. Alors après, est-ce que c'est quelqu'un qui en rajoute de la matière ou qui enlève de la matière? J'en sais rien.
C'est intéressant, ça.
Je suis plus intéressé par les gens qui enlèvent de la matière que ceux qui en rajoutent. Mais quoi que.
Alors, ce serait quoi comme métier, du coup?
Sculpteur, mais sculpteur. Les sculpteurs qui enlèvent la matière, pas les modeleurs. Donc, ouais, peut-être. Peut-être, mais aussi les peintres. Donc, je sais pas. Mais dans l'art. Ah, ouais, je crois que s'il y a quelque chose où je dois me projeter à la retraite, ça serait vers ça.
Et sur quelle matière? Puisque la matière est importante aussi pour nous.
Une matière pérenne, ça c'est sûr. Après, bon, non, je n'ai pas de matière. De l'instant que ça sculpte, ouais, pourquoi pas. Non, il y a... Le bois, c'est sympa. La pierre, j'aime bien la pierre, la rudesse. Je trouve ça assez... Là, en ce moment, avec ce qui s'est passé à Notre-Dame, on voit là les tailleurs de pierre en train de refaire certaines gargouilles et des pierres. Et je me dis, ça doit être magique de partir d'un bloc comme ça, brut, et tout d'un coup, d'en sortir une gargouille ou je ne sais quelle chose, crucifix ou autre. Je trouve ça assez magique, quoi, de transformer et d'avoir cette chose qui va rester peut-être des siècles. Et ça, j'avoue que ça me plaît beaucoup.
Merci beaucoup, Xavier. Avec plaisir.
Vous venez d'écouter Par Derrière, un podcast de Lise Pressac réalisé par Loïc De Oliveira. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à le partager sur les réseaux sociaux, à laisser des étoiles et des commentaires, à vous abonner. Ça nous aide à faire vivre ce podcast. Merci et à bientôt.